au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Jean Audouy dans le studio de Canal Académie, qui a lu un livre posthume de l'académicien Henri Troya de l'Académie française qui s'intitule « La folie des anges ». Bonjour Jean Audouy.
Bonjour Hélène.
Ce n'est pas le premier inédit d'Henri Troya que vous traitez, puisqu'il avait déjà publié un autre inédit. Vous aimez particulièrement Henri Troya, j'en ai tiré cette conclusion.
J'aime beaucoup Henri Troya. Et j'aime beaucoup aussi son éditeur
Bernard de Falloy, oui.
Qui, outre le fait qu'il a beaucoup de talent comme homme, comme écrivain, se fait une spécialité de publier ce que vous me pardonnerez peut-être d'appeler les œuvres d'outre-tombe.
Des inédits ou des non publiés du vivant d'Henri Troya, qui est mort,
voilà.
Qui est mort il n'y a pas très longtemps,
en 2007.
Voilà. Donc Bernard de Falloy a dû trouver deux ouvrages qui n'étaient pas publiés encore. Et donc, vous allez nous parler de celui-ci, La folie des anges.
La folie des anges. Oui, vous savez sans doute, nos auditeurs savent peut-être, que Jean-Christophe Ruffin a été élu à son fauteuil et va prononcer, ou a prononcé d'ici il y a quelques jours...
Le 12 novembre 2009, voilà,
il a prononcé de son
l'éloge d'Henri Troya.
Oui, et la parution de la folie des anges fait écho au discours qui retentira sous la coupole, ou qui a retenti déjà au moment où je vous parle.
Qui sont les anges dont tu parles, Henri Troya?
Oui, c'est vrai que...
Des vrais ou des faux?
C'est tout le problème. De quelle folie se rendent-ils coupables? En effet, on n'imagine pas les anges comme fous. Eh bien, ces anges-ci sont fous ou folles, comme on voudra, puisqu'il s'agit de deux femmes. C'est d'abord une très vieille dame, prénommée Aline, qui est une ancienne actrice de théâtre. Elle tenait les rôles de soubrette qu'elle interprétait à ravir. Elle avait beaucoup de succès, un physique avenant et du piquant, tout ce qu'il faut pour ce genre de rôle. Mais les années ont passé et elle achève tristement sa vie au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble de la rue de Lille, pas si loin d'ici. Elle perd doucement la tête. On parlerait aujourd'hui d'Alzheimer. Quoi qu'il en soit, sa fille Héloïse, sa fille unique, Héloïse, veille sur elle. C'est une femme, je parle d'Héloïse, extrêmement décidée, qui vit avec passion, une vie sentimentale harmonieuse d'ailleurs, mais c'est une femme de caractère. Et elle veille sur sa mère avec une espèce de tendresse protectrice, autoritaire, dure parfois. J'ai toujours été frappé lorsque je considère des rapports même mère-fille et... S'il s'agit de mères qui ont atteint, si je puis dire, les rivages de la vieillesse, du fait que les rapports s'intervertissent, s'inversent. La mère devient l'enfant de la fille.
Et l'autorité change de camp. Oui.
Et l'autorité change de camp, la protection aussi, tout ça change de camp. C'est assez bouleversant. Je l'ai éprouvé dans ma propre famille. Je crois que c'est assez banal. C'est une des caractéristiques possibles, mais fréquentes, de la fin de vie.
Donc, et cette Héloïse, c'est l'un des anges dans le roman de Henri Troya. Est-ce qu'il
non.
y a un autre ange?
Oui, non, Héloïse, à mon avis, ne...
Elle ne fait pas partie des
non,
anges.
Non, je ne crois pas. Enfin, dans mon interprétation à moi, je ne crois pas. Je crois que... Enfin, peut-être qu'elle participe au bal des anges, si je puis dire. Mais elle n'en est pas... Elle n'est pas vraiment au centre, elle n'est pas tellement angélique... Elle ne le deviendra qu'à la fin, quand il sera trop tard. Non, le deuxième ange, c'est une brave petite servante nommée Agathe, qu'Héloïse, finissant par se rendre compte de l'état de sa mère, a accepté, sur l'insistance du médecin, d'embaucher. Agathe est un cœur simple. Elle arrive, sinon tout droit de sa province, du moins d'une famille, d'une culture, des gens simples, des petites gens. Et devant elle, Aline, va soudain retrouver une espèce de nouvelle jeunesse parce qu'elle a ce qui lui manquait le plus depuis toujours, depuis si longtemps, un public. Et devant Agathe médusée et admirative, elle va rejouer, elle va revivre sa carrière, qu'elle embellit naturellement en ajoutant des détails pittoresques, grandioses, bref, en donnant la comédie, ce qui a toujours été son métier, la comédie de sa comédie. Et puis, les deux anges en question vont tomber amoureuses d'un chat, un simple chat, qui se sauve. On va le rechercher. Il appartenait en fait à une bistrotière qui refuse de le céder à Aline, qui aurait tant aimé. Mais finalement, elle obtient la permission d'aller le voir. Et toutes les semaines, elle va, traversant les rues et retrouvant des sensations qu'elle avait perdues depuis longtemps, elle va voir le chat. Mais voilà qu'un jour, le chat se sauve du bistrot où il habitait et Agathe, affolée, la servante, court entre les voitures pour rattraper le chat. Catastrophe. Elle est renversée par une voiture. Elle mourra à l'hôpital. Et pour Aline, c'est la fin. Elle va sombrer de chagrin dans une débâcle du corps et de l'esprit. Et Héloïse, qui alors là peut-être avez-vous raison, sera de cette façon invitée à entrer dans le cercle des anges. Héloïse va s'écrouler de chagrin et de remémoration un peu coupable, puisqu'elle n'a pas su aimer comme il aurait peut-être fallu, en tout cas comme sa mère l'aurait voulu. Elle n'a pas su aimer ce petit être qui lui a donné le jour et qui est devenu si fragile, si attendrissant.
Alors on pourrait penser que c'est en effet la manière d'Henri Troya de méditer sur la fin de la vie et sur la mort.
Oui.
En même temps, c'est un livre qu'il a écrit entre 88 et 94, donc ces deux ouvrages non inédits et non publiés de son vivant, Le pas du juge et La folie des anges.
Oui.
Donc on ne peut pas penser que c'est un livre de la vieillesse de Troya,
non,
pas
non.
Encore, tout de même, oui, c'est écrit presque 20 ans avant qu'il meure. Donc,
C'est un livre de l'âge mûr, probablement. C'est quand même le livre d'un homme qui a beaucoup réfléchi sur la vie, qui est très sensible à la souffrance des autres. Et ce qui est très touchant, ce qui est touchant dans ce roman, c'est la simplicité extraordinaire avec laquelle il s'exprime. Il n'y a pas du tout d'artifice littéraire, il n'y a pas du tout d'appel du pied de grand comédien de l'écriture. Il y a vraiment une nudité, une transparence absolument parfaite. C'est d'un art consommé, si l'on veut bien admettre que le comble de l'art, c'est de se rendre invisible. C'est très beau, c'est très émouvant, je l'ai dit. Décidément, les grands écrivains ne meurent jamais.
Oui, certainement. Et en plus, vous avez, à l'occasion de la relecture de ce livre, Jean Mauduit, vous vous êtes repenché sur l'extraordinaire fécondité littéraire d'Henri Troya. Vous avez même avancé quelques chiffres, 37 romans.
37 romans.
Sans compter les cycles romanesques.
Il y a 5 cycles romanesques qui font chacun de 3 à 5
volumes. Il y a des biographies.
Oui, il y a une bonne trentaine de biographies.
33 biographies, vous m'avez dit, oui.
Il y a des livres, une dizaine de livres, d'ouvrages d'essais ou de voyages. Il y a des ouvrages de nouvelles, des recueils de nouvelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ça doit faire au
total
une
bonne centaine.
C'est extraordinaire.
C'est assez extraordinaire. Il a écrit au moins 2 volumes par an. Ça fait 50 ans d'écriture.
Une grande facilité, alors.
Une très grande facilité.
Et peut-être aussi une grande tranquillité pour écrire,
oui.
Peut-être.
D'ailleurs, facilité, le mot est ambigu. Il ne s'accorde pas de facilité, mais il écrit facilement, ce qui n'est pas la même chose.
Pas la même chose.
Tout coule de source. Il a une imagination étonnante. Il a beaucoup vu, beaucoup retenu. Il évoque les milieux les plus différents, toujours avec cette même façon d'aller à l'essentiel. C'est vraiment un très grand écrivain.
En tout
cas, on ne le dit pas assez, peut-être.
Voilà, on ne le dit pas assez, mais sans doute on trouvera tous intérêt à écouter ce que Jean-Christophe Ruffin, donc son successeur au fauteuil de l'Académie française, dira pour faire l'éloge de son prédécesseur. Certainement, il ne manquera pas de souligner cette extraordinaire fécondité littéraire. À bientôt, Jean Bauduit.
À bientôt, Hélène.